Peut-être que je pourrais juste dire, pour ceux qui ne connaissent pas Anne-Catherine, en fait, elle était déjà venue il y a quelques mois. Anne-Catherine est théologienne. Elle a fait ses études à la faculté libre de théologie à Vaux-sur-Seine.
Je m'appelle Marie. Dans la Bible, on m'appelle Marie de Magdala, pour ne pas me confondre avec Marie, la mère de Jésus, ou avec Marie de Béthanie. Pourquoi Marie de Magdala? Eh bien, tout simplement parce que c'est de là que je viens, sur la rive ouest du lac de Galilée. C'est un peu comme ici, hein, les rives du Léman. C'est beau, ça a du charme, non? Mon village se trouve à environ 2 heures de marche de Capernaum, la ville où habite Jésus. Oh, je pourrais vous raconter beaucoup de choses de ma vie, mais cela n'en vaut pas tellement la peine. Question argent, j'avais de quoi vivre, c'est pas ça le problème. Mais ma vie était un véritable désastre. Je ne voyais jamais le bout du tunnel. En fait, j'étais habitée de 7 démons. 7, c'est le symbole de la perfection. Mais 7 démons, je vous assure, c'était vraiment l'enfer. J'étais sans cesse tourmentée. Bref, ma vie était un véritable cauchemar. Jésus parcourait la Galilée. Il enseignait dans les synagogues. Il disait « Le royaume de Dieu s'est approché ». Et il guérissait beaucoup de gens. Un jour, je l'ai rencontré et là, ça a tout changé. D'emblée, il a vu ma détresse et il a chassé les démons qui me torturaient. Je me sentais libre, enfin libre. Après avoir été si longtemps perturbée, torturée. Alors d'un jour à l'autre, eh bien, j'ai tout quitté pour suivre Jésus. Je l'aime tellement, vous comprenez ? C'était bien normal que je l'accompagne. Avec quelques dames, je me suis occupée de la logistique. Jésus passait des heures à guérir et à enseigner. Il en aurait oublié de manger si nous n'avions pas prévu et préparé les repas. Il fallait bien qu'il reprenne des forces. Il passait souvent des nuits entières en prière. Il était éreinté. Et entre nous soit dit, je ne sais pas avec quoi il aurait vécu si nous n'avions pas aussi financé ses tournées. Après quelque temps, Jésus a décidé de quitter la Galilée pour monter à Jérusalem. C'était un assez long voyage, d'environ 4 jours de marche. Mais j'avais tant de plaisir d'être avec Jésus, alors je n'ai pas hésité. Quand on aime, on compte pas, hein. Je n'ai pas hésité à partir avec lui. Et en route, Jésus prenait le temps de rencontrer des personnes. C'était tellement enrichissant. Il leur annonçait cette bonne nouvelle, le royaume de Dieu s'est approché. Et puis en chemin, Jésus avait toujours tellement de choses intéressantes à nous apprendre. Bien sûr, à la synagogue, j'avais entendu parler des histoires du peuple d'Israël. Mais c'était pas la même chose. Jésus, lui, nous parlait avec une telle sagesse, une telle autorité. Ah, on buvait ses paroles. Quand on est arrivé à Jérusalem, il y avait du monde, car la Pâque approchait, et puis les gens venaient déjà plusieurs jours à l'avance pour la fête. Ils venaient se purifier quelques jours à l'avance. Tous acclamaient Jésus en pensant qu'il allait enfin instaurer le royaume de Dieu sur la terre. Un jour, Jésus est monté au temple pour se recueillir devant son Père. Ah, mais il a été déçu. Il s'est retrouvé dans une foule bruyante de vendeurs de pigeons et de changeurs de monnaie. Indigné, il les a chassés avec tout leur commerce, il a renversé leur table. Et puis il leur a dit « Mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous, Vous en avez fait une caverne de voleurs. » La tension dans l'air était palpable. On sentait que Jésus allait avoir des problèmes. Mais finalement, il s'est approché d'aveugles et de boiteux pour les guérir. Alors là, la foule était aux anges. Même les enfants s'écriaient « Hosanna au fils de David !» Les chefs religieux, eux, ils n'ont pas du tout aimé. Mais alors, pas du tout aimé que Jésus attire les foules et les enseigne. Pour eux, Jésus n'était qu'un imposteur. Il n'était pas ce soi-disant fils de David qui allait devenir roi. Les jours suivants, sans cesse, les chefs religieux étaient là pour essayer de le coincer. Mais en fait, c'était eux qui étaient complètement coincés. Ils voulaient garder leur pouvoir sur le peuple et puis s'accaparer leurs richesses. Ils appliquaient la loi pour juger les autres. Mais eux, ils se croyaient blancs comme neige. Plusieurs fois, Jésus les a traités d'hypocrites. Il leur a dit « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont pleins d'ossements, de morts et de toutes sortes d'impuretés. » Ah, c'était fort. Et là, alors là, on a compris que Jésus, ça allait vraiment mal finir pour lui. En sortant du temple, Jésus était bouleversé de penser que ces spécialistes de la loi de Moïse puissent utiliser cette loi pour s'opposer à Dieu. Alors Jésus s'est lamenté. Il a dit « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Après tous ces événements, on a bien essayé de dire à Jésus que c'était risqué pour lui de rester à Jérusalem pour la Pâque. Mais étonnamment, il a répondu que le Fils de l'homme serait arrêté pour être crucifié. Puis nous, on n'a vraiment rien compris. Le soir, lors du repas, Jésus a rompu le pain en disant à ses disciples « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il a pris aussi une coupe de vin et leur disant « Buvez-en tous. » Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Boire son sang, manger son corps. On n'a rien compris. L'ambiance était bizarre. Personne n'osait le questionner, mais on sentait que des choses terribles se profilaient. Judas, l'un des disciples, s'était éclipsé. Plus tard, on a su qu'il avait négocié un petit pactole en échange de Jésus. Après le repas, Jésus nous a emmenés au jardin de Gethsémané, un endroit qu'il aimait beaucoup. Mais Judas aussi avait bien pensé qu'on serait là. Alors il est arrivé à la tête d'une foule armée, envoyée par les chefs religieux. Et voyant que les choses tournaient mal, la plupart des disciples ont déguerpi. Jésus a été arrêté. Les chefs religieux l'ont interrogé, puis ils l'ont envoyé au gouverneur Ponce Pilate. Pilate l'a remis à ses soldats pour le faire fouetter, puis eux, au passage, ils en ont profité pour l'injurier et le frapper. Tôt le matin, quand j'ai appris que Jésus avait été arrêté, je suis vite montée au palais du gouverneur sur la colline de Sion. Je me suis glissée dans la foule. Et à chaque fête, Pilate relâchait un prisonnier pour se faire bien voir. Alors il a proposé Barabbas, un meurtrier, ou Jésus. Et la foule, manipulée par les chefs religieux, elle a choisi de libérer Barabbas. Mais c'était tellement stupide. Ensuite, Pilate a demandé, qu'est-ce qu'il faut faire de ce Jésus ? Et là, comme un seul homme, la foule a crié, crucifie-le, crucifie-le ! Alors moi, je me suis mise à trembler de la tête aux pieds. Infliger à Jésus une torture aussi horrible, aussi honteuse, mais c'est pas possible, lui qui n'a rien fait de mal. C'est tellement injuste. Tout le monde avait entendu ces paroles pleines de douceur et de vérité. Tout le monde avait vu ces guérisons, ces miracles réalisés avec tant d'amour. J'étais abasourdie, sous le choc. Peu avant 9h, j'ai vu un cortège se former avec Jésus et deux autres hommes qui portaient une croix. Et là, non, j'en pouvais plus, je me suis retirée pour pleurer. J'ai pas pu supporter de voir ça, une telle injustice. Il n'y a même pas eu de procès, Jésus n'a même pas pu se défendre. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai quitté la ville pour aller à Golgotha, là où avait lieu le supplice. Je voulais quand même pas abandonner Jésus dans des moments si terribles. Autour de la croix, il y avait les soldats qui montaient la garde dans un silence de mort. Une foule de curieux avec les chefs religieux regardaient. Certains n'ont pas hésité à se moquer encore de Jésus, mais quelle honte ! Plus loin, j'ai vu Marie, sa mère, avec d'autres croyantes. Alors, je me suis jointe à elle. Et nous sommes restés là longtemps. Longtemps à pleurer. Choquée de voir Jésus souffrir autant. À midi, soudain, il a fait nuit. L'obscurité a recouvert le pays jusqu'à 3h de l'après-midi, quand Jésus est mort. On n'avait plus que les larmes pour pleurer. C'était horrible. En fin de journée commençait le sabbat spécial de la Pâque. Les Juifs voulaient donc vite enlever les crucifiés pour pas faire tache dans la fête. Avec la permission de Pilate, Joseph d'Arimathée et Nicodème sont venus enlever le corps de Jésus, le descendre de la croix. Et avec soin, ils l'ont enveloppé dans des bandelettes en mettant des aromates pour que le corps ne sente pas. Ils ont terminé trop tard pour emmener Jésus dans le tombeau de sa famille. Alors, ils l'ont déposé dans un jardin juste là à côté, où un tombeau tout neuf venait d'être taillé dans la pierre. Avec Marie, la mère de Jésus, j'ai assisté à l'inhumation. Et ensuite, on est rentré à la maison. Quant à moi, j'ai passé tout le sabbat à pleurer. Tôt le dimanche matin, j'avais pris des aromates et je suis partie avec d'autres dames pour embaumer le corps de Jésus, comme ça se fait selon la tradition juive. Puis en approchant, on se disait, mais qui nous roulera la pierre ? Mais en fait, la pierre était déjà roulée. La pierre qui fermait l'accès au tombeau. Et là, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Des gens ont profané le tombeau, ils l'ont vandalisé, ils ont volé son corps. Alors, j'ai vite couru chez Simon-Pierre et Jean et je leur ai dit, ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Pierre et Jean sont partis au pas de course jusqu'au tombeau. Jean est arrivé le premier, mais il s'est arrêté net devant l'entrée. Il s'est penché pour voir dedans. Et puis, il a vu les bandelettes là, posées par terre. Ensuite, Pierre est arrivé, puis lui, il est direct entré dans le tombeau. Et il a vu aussi les bandelettes, là où étaient les pieds de Jésus, et puis plus loin, le linge qui était autour de sa tête. C'était bizarre. Le linge était soigneusement roulé. Si des gens avaient voulu voler le corps de Jésus ou vandaliser sa tombe, ils n'auraient pas tout laissé en ordre. Alors Jean est aussi entré dans le tombeau. Quand il a vu le linge et les bandelettes, il a cru au Seigneur. Il s'est dit que Jésus avait dû être enlevé par Dieu comme Enoch ou Élie. Finalement, ne sachant trop que penser de tout ça, eh bien, Pierre et Jean sont rentrés chez eux. Mais moi, non, j'arrivais pas. Je ruminais tout ça, j'étais désespérée. Je ne pouvais pas comprendre que Jésus, qui m'avait guéri, qui m'avait donné une vie nouvelle, soit mort. C'est pas possible. Il y a encore 2 jours, on croyait qu'il serait sacré roi, qu'il allait délivrer notre peuple des Romains, qu'il allait libérer Israël, comme les prophètes l'avaient annoncé. On avait cru que le royaume était là. Enfin, on avait mis tous nos espoirs en Jésus. Mais maintenant, la mort avait tout anéanti. J'étais démolie. L'espérance de notre peuple était partie en fumée. Je ne faisais que pleurer. Il y avait eu trop d'émotions. Alors, j'ai voulu regarder encore dans ce tombeau où il était. Une dernière fois, je me suis penchée pour voir à l'intérieur. Et là, soudain, j'ai vu 2 anges resplendissants. Ils étaient là, tranquilles, assis. L'un où était la tête de Jésus, l'autre où étaient ses pieds. Et ils m'ont dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » J'ai répondu ce que j'avais déjà dit à Pierre et à Jean. « Ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Jésus a subi une mort horrible. Je voulais au moins qu'il soit embaumé. Mais on avait volé le corps. On nous empêchait même d'avoir une tombe où se recueillir. On n'avait pas pu enterrer notre bien-aimé. J'allais repartir. Je me suis retournée quand soudain j'ai vu un homme. Ah, c'est dingue, il m'a posé la même question. « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » J'ai pensé que c'était le jardinier. Alors je l'ai supplié, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Quelle question me demander pourquoi je pleure après avoir perdu un être aussi cher. Bon sang, en plus que des gens aient volé son corps, mais c'est vraiment pas drôle. Ça commence à m'énerver toute cette histoire. Je voulais juste m'occuper du corps de Jésus pour l'enterrer dignement. Alors ce jardinier m'a dit, Marie. Et là, tout d'un coup, j'ai vu que c'était Jésus. J'en croyais pas mes yeux. Je venais m'occuper d'un cadavre et je me retrouve face à Jésus vivant. Ah, je vous assure, ça fait un choc. Je l'entends encore me dire, Marie, avec une telle autorité, une telle douceur. Ah, j'ai reconnu cette voix qui nous avait si souvent parlé quand on était en Galilée. Il nous parlait avec tellement d'amour. Alors, je lui ai répondu, Maître. Ah, c'était incroyable, magnifique. Que d'émotion de retrouver mon Seigneur. J'aurais voulu faire la fête et organiser un grand repas avec tous ses disciples. Mais Jésus m'a dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore montée vers mon Père. Ouais, j'étais un peu déçue. Mais après, en y réfléchissant, j'ai compris. Son Père l'attendait au ciel, mais bien sûr, il voulait lui faire la fête. Il voulait le consacrer roi de gloire. L'installer sur son trône, à sa droite, pour toujours. Oui, Jésus est devenu roi, et puis pas seulement de notre peuple Israël. Il a vaincu tous les pouvoirs mauvais et il règne sur tout l'univers. Jésus m'a encore dit, « Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Ah, j'en étais bouleversée. Moi, une simple femme au passé si lourd, il me confiait la responsabilité d'annoncer à ces messieurs que Jésus est ressuscité. Mais ils ne vont pas me croire. Pourtant, j'étais si heureuse d'avoir vu Jésus que de toute façon, je ne pouvais pas garder ça pour moi. Alors, j'ai couru le dire aux disciples. Je leur ai raconté combien je pleurais de ne pas retrouver ce corps pour l'embaumer, quand soudain ce jardinier m'a dit, non pas « Quel corps cherches-tu » ou « Quel tombeau cherches-tu » mais « Qui cherches-tu » Jésus m'avait donné là un indice. Mais moi je ne comprenais pas, tant j'étais préoccupée par ce corps de mort. Et puis soudain, quand j'ai entendu « Marie », alors là, ça a été le déclic. Jésus m'a appelée pour me faire entrer dans une vie nouvelle. Et j'ai compris qu'il me disait « Marie, mais sors de ton tombeau, sors de ton enfermement, sors de ta vision des choses toutes humaines. Ne cherche pas parmi les morts celui qui est vivant. Oui, je suis ressuscitée, je suis vivant, j'ai vaincu la mort. Fais-moi confiance. » Laisse-moi tes peurs, tes peines, tes soucis, je m'en suis chargée à la croix. Après, je n'ai pas pu m'empêcher de raconter aussi aux disciples ce que Jésus m'avait dit. C'est tellement incroyable. Je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Jésus, maintenant, nous considère tous. Tous ses disciples, ils nous considèrent comme de petits frères et sœurs. Hommes, femmes et enfants de toutes les nations peuvent maintenant entrer dans sa famille. La famille de Dieu. Waouh ! Avec les disciples, on était tellement heureux. On a passé toute la journée à chanter, à louer Dieu. Et on disait à qui voulait l'entendre, Jésus est sorti du tombeau. Il est vivant pour toujours. Il a vaincu la mort. Alors, vous aussi, sortez de vos tombeaux, demandez-lui pardon pour vos fautes, faites-lui confiance. Jésus vous aime, il vous invite à faire partie de sa famille, la famille de Dieu. Et mieux que ça, il est en train de nous préparer une énorme fête éternelle dans son royaume, parce qu'il revient bientôt. Alors réjouissons-nous, il veut que nous fassions partie de sa famille. Amen.
Merci à Anne-Catherine. Merci de nous avoir permis de revivre ces moments.